Bonjour.
Alors bonjour.
Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Bonjour, merci, je vais bien et vous?
Alors bonjour d'abord.
Vous êtes venu pour faire la radio ici?
Léo.
Mathéo.
Yann.
Caramba.
Altor.
Orphalie.
Et Victor.
Attends, comment se réveille?
Nous allons aller au chronographe pour faire une visite du chronographe.
On parle beaucoup d'archéologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le quadrillage qu'on a au sol?
Qu'est-ce que c'est? Néandertal, s'il vous plaît.
Et ben c'est ce qu'on va découvrir ensemble, donc je ne vais pas y répondre tout de suite.
Alors, je vais peut-être me présenter quand même, parce que vous allez me voir à peu près toute la journée. Je m'appelle Jonathan.
On est où, là?
Là, on est dans la galerie de géologie.
Et on va faire quoi, après?
Et on ne va pas rester dans cette galerie, on va passer dans l'exposition Néandertal.
J'aurais mis Aïcha pour poser des questions. Qui voudrait être technicien, c'est-à-dire tenir l'enregistreur?
Colo Radio.
Bonjour, bienvenue sur notre DTFM 91.2 pour l'émission Journal et Néandertal Radio. Nous faisons partie de la Colo Radio, une colonie pour apprendre à faire de la radio. L'émission sera animée par Guillaume, Léo, Tofali, Karmba, Mathéo, Ali et Victor. Nous allons vous présenter Néandertal à travers nos visites au chronographe et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes.
On a interviewé plusieurs personnes qui vous allez découvrir au fur et à mesure de l'émission. À l'issue de cette semaine passée tous ensemble, on a réalisé une fiction qui s'appelle Néandertal Life. Maintenant, nous donnons la parole à Karmba, Léo et Guillaume pour vous raconter notre journée au chronographe.
Merci les gars, il est pile l'heure de vous présenter ce que nous avons appris et découvert au chronographe. Mais d'abord, c'est quoi le chronographe, Guillaume?
Le chronographe, c'est un musée eurasien sur l'archéologie. Il est situé sur les vestiges de la ville antique, Raciatum. Son exposition permanente retrace l'histoire de cette cité et il présente en ce moment une exposition temporaire sur l'ère néandertalienne qui s'appelle « Le temps d'une journée ».
C'est Mone, Solène et Cindy qui nous ont accueillis le temps d'une journée au chronographe pour nous présenter tout ça.
Mone nous a proposé de découvrir les lieux avec un jeu de pistes, puis Solène nous a fait une visite guidée de l'exposition sur Néandertal. Enfin, nous avons fait un atelier avec Cindy pour apprendre à faire du feu à la façon des Néandertaliens.
Moi, ce que j'ai appris pendant la visite, c'est que le belvédère du chronographe est hyper haut. J'ai été surpris qu'à l'Antiquité, ils construisent des trucs aussi impressionnants. Vu que j'ai le vertige, ben j'ai flippé quand même.
J'ai appris que les Néandertaliens utilisaient la technique Levallois pour tailler leur silex. Ils savaient à l'avance quels outils ils allaient faire et où taper sur le caillou. Leurs outils étaient vraiment très coupants. On a pu les toucher.
On a vu qu'ils utilisaient des outils pour dépecer la viande et que contrairement à ce qu'on pense, ils ne chassaient pas beaucoup les mammouths.
Merci encore à l'équipe du chronographe et chers auditeurs et auditrices, vous trouverez toutes les infos sur le lieu au www.lechronographe.nantesmétropole.fr.
Maintenant, nous donnons la parole à Ali qui va revenir sur l'atelier feu.
Attends, comment se réveille?
Nous allons aller au chronographe pour faire une visite du chronographe.
Bonjour. Je vais vous présenter l'atelier feu qu'on a fait au chronographe. Dans l'atelier feu, on a appris à faire de la fumée et des étincelles. On a utilisé un archer en bois, un bout de bois et une planche. On a enroulé le bout de bois autour de la corde en formant un 8 et en bougeant l'archer de plus en plus vite sur la planche, faisant du feu. On a aussi utilisé deux pierres, un silex, une pierre qui contient du fer. On a frotté les deux pierres l'une contre l'autre. Ça faisait des étincelles. Les étincelles tombaient sur les champignons écrasés. Les Néandertaliens prenaient ensuite les champignons brûlés pour faire du feu. On va vous passer une musique de XXXTentacion. Je laisse mon collègue Tanfali vous la présenter.
Bonjour, XXXTentacion est un chanteur qui aime être dans l'ombre. On a choisi Moonlight, qui veut dire clair de lune. La nuit, il aime réfléchir à lui-même. Malheureusement, il est mort à cause d'un gang qui l'a tué. Ils étaient 4 tueurs. Ils sont condamnés à vie pour meurtre. On a choisi le morceau car il parle de désespoir et de tristesse. Ça représente bien Excitation, car il était petit, il était maltraité. Moonlight nous fait aussi penser au nomadisme des Néandertals. Il devait être triste de bouger pour aller chercher du gibier. Dédicace à mon frère Marely et mon petit cousin Maily. Bonne écoute à vous. Yeah.
Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya.
Feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson, no. But who you testing? Fuck a Scantron, here's your lesson, no. Knifing and testing, taking shots at all your brethren, no. Feel like I'm damaged, you fucking playing it. I'm coming for me, give it right. You know you come and give it right.
Why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya.
On vient d'écouter Molon de XXXTentacion. Vous êtes sur GTFM 91.2 dans l'émission GNR. Maintenant, on va vous raconter notre visite au muséum avec Jonathan.
Bonjour, ça va? Allez, venez, rentrez déjà dans le musée. On va pouvoir se poser tranquillement. Il faut que je ferme derrière vous, je suis désolé. Parce que le musée il ouvre qu'à 10h et là il est 9h44. C'est bon, on est dans la boîte.
On a rencontré Jonathan, chargé de médiation au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Il nous avait visité le musée, il nous a montré différentes salles dont certaines interdites. Ceci était vraiment intéressant, car je n'avais jamais eu connaissance de ces salles. Comme celle où ils entreposent de vieux animaux conservés à l'arsenic. Il ne fallait d'ailleurs pas les toucher, car c'est très dangereux.
Alors, pourquoi l'arsenic? Parce que l'arsenic, eh ben, pour les plumes d'oiseaux notamment, c'était un des produits les plus conservateurs. En fait, pourquoi on passe un produit sur les animaux? C'est pour éviter que des champignons ou que des insectes viennent s'en nourrir après. Et ça les maintient des fois pendant 150 ans, 200 ans, comme ça. Donc c'était à l'époque le produit le plus sûr. Ça a changé aussi, on n'a plus le droit d'utiliser l'arsenic, heureusement.
C'était la salle d'un célèbre taxidermiste, mort aujourd'hui. Il a cédé sa collection au muséum. On a vu des oiseaux, des reptiles, des crapauds enfermés dans des bocaux, qui ressemblait étrangèrement à Jabba the Hutt dans Star Wars.
Et beaucoup de spécimens dans les films, Star Wars entre autres, mais pas que, et ben ils ont utilisé les animaux pour s'en inspirer.
Mais normalement, Jabba the Hutt, il a un truc là. Comme...
Bah, il le modifie un petit peu quand même. Hein.
Oui, on peut laisser un gros crapaud.
Vous avez pas encore vu, vous, le film Alien? Mais le film Alien...
Et Alien, moi j'ai vu.
T'as vu le film Alien?
Oui, même. Attends, il le contamine, après il y a un bébé, il sort du ventre.
Ouais, et ben tu sais la tête d'Alien?
Mmh.
Ah oui.
Avec la bouche qui ressort comme ça.
Ouais.
Et ben, est-ce que tu sais sur quel animal il a pris modèle?
Sur ça.
Gaguerre.
Sur ça.
Et ben Gaguerre, en fait, il a pris modèle sur des larves de libellules qui vivent dans les mares.
Et on a aussi vu l'évolution d'un œuf jusqu'à devenir une larve. Jonathan nous a expliqué, ou plutôt appris, son métier et son rôle dans le muséum.
Je suis médiateur scientifique ici au muséum. Je travaille ici depuis 12 ans maintenant, dans le service des publics.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, mon métier, en fait, il consiste à rendre accessible au public toutes les collections du muséum ou tous les savoirs scientifiques qu'il y a ici. On conçoit des visites, on construit des ateliers, des animations, on met en place des outils dans les salles pour que les gens arrivent à comprendre ce qu'on présente déjà et puis en savoir un peu plus aussi sur les spécimens qui sont dans les salles.
Faites-vous que des animations ?
Alors non, en fait, le service des publics du muséum, et moi en particulier, on ne fait pas non plus que des animations. Vous avez vu, hein, y a des enfants, il y a des adultes, parfois il y a aussi des groupes, des écoles. On ne peut pas leur proposer que des animations, on essaye de voir ce qui peut vraiment les intéresser. Ça peut être juste d'aller rencontrer les gens dans les salles et répondre à des questions, ça peut être faire des animations, des visites commentées, des visites guidées aussi. Et puis moi, dans mes missions, j'ai des missions qu'on dit hors les murs. Donc ça veut dire que le muséum, on ne fait pas tout ici au muséum. On va rencontrer les habitants, par exemple. Des fois, j'emmène des jeunes sur construire une mare à Nantes, par exemple. Ça m'a amené à partir au Chili, par exemple, pour aller chercher des météorites dans un désert avec des jeunes. Ou là, en 2019, d'aller au Cameroun pour aller faire un inventaire de libellules avec un collègue du muséum. Donc la médiation scientifique est mon métier. Il est plus large que juste faire des animations ou des visites.
Quelle étude avez-vous faite ?
J'ai un diplôme d'État dans l'éducation populaire. J'ai été en fait pendant 8 ans directeur d'une maison de l'enfance, recruté ici pour la connaissance des groupes que je pouvais avoir. Et j'ai appris pendant plusieurs années, je continue d'apprendre les sciences, donc ici au muséum. Donc en fait, c'est un peu comme si je faisais une formation sur le terrain depuis 12 ans.
Vous préférez dans l'exposition Néandertal ?
Ce que j'aime bien dans cette exposition, c'est que c'est à chaque pas qu'on fait dans l'exposition, on voit des animaux, on voit des roches, on voit des squelettes. Mais à chaque fois, il y a un mystère. C'est comment vivait Néandertal. Et ça, je trouve ça, c'est ce qui me plaît le plus dans cette exposition, c'est justement d'essayer de comprendre exactement comment il vivait et qui il était. Et ça, c'est un travail d'enquête, c'est un travail de fourmi. Peut-être que plus jeune, j'avais envie d'être inspecteur ou je ne sais pas.
Êtes-vous passionné par les araignées et les serpents ?
J'aime particulièrement en fait les animaux qui ne plaisent pas aux autres. Ils sont méconnus et sont souvent mal compris. Et moi, j'aime bien ces animaux qui sont mal compris.
Y avait-il des araignées avec le néandertalien ?
Oui, il y avait des araignées. Après, ça dépend aussi à quelle époque. Vous savez que Néandertal vivait soit à une époque glaciaire, soit interglaciaire. Les araignées, elles ont besoin d'un minimum quand même de chaleur pour pouvoir vivre. Donc quand c'était la période glaciaire, si c'était tout en glace, effectivement, c'était quand même pas facile pour les araignées de s'adapter. Par contre, quand c'était un climat tempéré, là, pour les araignées, c'était très bien. Donc les araignées, elles sont présentes sur la Terre depuis bien avant les hommes. Elles sont arrivées bien avant les hommes. Elles sont même arrivées avant les dinosaures.
On vient d'écouter l'interview de Jonathan, médiateur du musée d'histoire naturelle de Nantes. Vous êtes sur JET FM 91.2 dans l'émission JNR. Au musée, on avait aussi rencontré Sylvie, la directrice adjointe. On lui avait demandé à quoi servent les musées d'histoire naturelle. Elle nous a expliqué qu'à l'époque, c'était le Google des gens. Pour connaître les animaux, les nouvelles espèces, on les capturait, on les empaillait, on les étudiait. On pouvait aller les voir pour apprendre. Et c'était gratuit. Pour elle, Google, c'est bien, mais c'est pas pareil que d'aller au musée. C'est pour ça que c'est pas cher d'y aller. On lui a posé d'autres questions. On va vous laisser écouter et on se retrouve après.
Je m'appelle Sylvie. Je travaille au muséum depuis de nombreuses années. Je suis adjointe de direction et je m'occupe du service des publics au muséum. Je dirige le service des publics, c'est-à-dire le service de médiation et d'accueil du public.
Merci. Depuis quand le musée existe ?
Alors, le muséum à Nantes, il a été créé en 1810, peut-être un petit peu avant. Il y avait déjà des collections avant. Mais officiellement, sa création, sa date anniversaire, c'est 1810. Par contre, là, le bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui, et que les visiteurs visitent quand ils viennent, c'est un bâtiment qui date de 1875.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au musée ?
Bah oui, ça c'est justement c'est mon travail de voir s'il y a beaucoup de personnes qui viennent au musée, qui vient au musée, quand est-ce qu'ils viennent. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent au musée. Depuis plusieurs années, on a tous les ans plus de 100 000 visiteurs qui viennent au musée. Parfois 120, 140 000. On atteint presque les 150 000 parfois. Alors, on appelle ça des bonnes fréquentations, quand il y a beaucoup de personnes qui viennent, c'est souvent parce que l'exposition temporaire plaît beaucoup. Par exemple, une année, on a eu une exposition sur les fourmis.
Ah oui.
Et on a eu beaucoup, beaucoup de personnes.
À la fin, il y avait un jeu de fourmis.
Tu l'as vu, cette exposition sur les fourmis ?
Oui, j'ai vu ça en 2014 ou en 2015.
Tu as bonne mémoire. Je crois que c'était en 2015-2016. Et là, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de monde parce que les expositions, quand il y a des animaux vivants, ça attire toujours beaucoup de personnes. Cette année, on aura aussi beaucoup de monde cet été parce que l'exposition sur Néandertal va bien plaire. Dès qu'on parle de la préhistoire, ça passionne les gens.
Et vous, qu'est-ce que vous passionnez ?
Moi, ce qui me passionne, c'est de toujours rencontrer des gens différents dans ce musée. Alors parfois, il y a des gens qui viennent me voir, qui ont des projets. Et ce qui me passionne, c'est de voir comment est-ce que on va pouvoir les aider à développer leurs projets, à faire en sorte qu'ils puissent venir chez nous, comme vous, aujourd'hui, par exemple, avec des micros pour faire une émission de radio. Et puis après, ce qui me passionne, c'est plutôt les animaux et plutôt toute la question de l'évolution des animaux. Et peut-être d'une théorie que vous connaissez, qui est la théorie de l'évolution, qui a été formulée, écrite par un monsieur qui s'appelle Darwin. C'était en 1859, hein, donc ça fait très longtemps.
Est-ce que le musée a déjà été cambriolé ?
Eh bien, écoute, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on fait tout pour qu'il ne soit pas cambriolé. Il y a des gens jour et nuit dans le musée. Donc là, vous êtes venus de jour, donc vous avez vu qu'il y a plein de monde. La nuit, on a un veilleur de nuit, toute la nuit. Parfois même deux qui se relayent pour faire toute la nuit. Et puis, on a tout un système d'alarme intrusion, c'est-à-dire si quelqu'un s'introduit dans le musée, ça sonne. D'alarme incendie aussi. Et donc le musée, non, je ne pense pas qu'il ait été cambriolé. D'autres muséums ont été cambriolés. À un moment donné, il y avait des personnes qui cherchaient les cornes de certains animaux, notamment de rhinocéros. Donc nous, on a fait très attention à ça à ce moment-là.
Vous venez d'écouter Sylvie, que l'on remercie d'avoir répondu à nos questions.
Maintenant, vous allez écouter les micro-trottoirs que nous avons faits au muséum. Bonne écoute sur DTFM.
Micro-trottoir, personne 2.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voudriez bien répondre à quelques questions ?
Oui, bien sûr.
Pourquoi vous êtes venu ici ?
Pour visiter l'exposition sur les hommes de Néandertal.
Parce que les gars, ils aiment bien s'intéresser à tout ce qui est préhistorique, les squelettes, les dinosaures et tout ça, les animaux. Hein.
Dès qu'il y avait une encore qui me faisait peur.
Parce que j'avais rien à faire.
On est venu aujourd'hui parce que mon frère me rend visite à Nantes et on voulait faire une sortie culturelle.
Parce que j'adore les squelettes.
Je travaille ici, je suis le photographe du musée.
Alors je suis venue parce que je viens avec ma petite nièce qui ne connaît pas le musée. Donc on vient voir les vipères, le vivarium et les animaux de la galerie.
Alors je suis venue voir cette exposition sur Néandertal parce que je suis enseignante et que voilà, ça m'intéresse pour moi et puis pour mes élèves.
Que préférez-vous dans le musée et pourquoi ?
Les squelettes anciens.
J'ai beaucoup apprécié l'exposition sur l'homme de Néandertal.
Le vivarium, parce qu'il y a des animaux vivants et puis des reptiles, c'est vraiment très beau.
J'ai bien aimé les serpents.
Et les squelettes, les pierres.
J'aime bien les ossements humains.
Et qu'est-ce que vous avez appris pour l'instant ?
Alors là, je sais pas. Sur l'homme de Néandertal, par exemple, qu'il enterrait ses morts, qu'il était cannibale.
Que Néandertal et Homo sapiens étaient de la même espèce.
Que les serpents n'avaient pas de paupières.
Et moi, j'ai appris qu'il y avait une forme humaine, une race humaine, qui était haute comme ça. Et qu'on appelait Hobbit.
J'ai trouvé les vidéos très intéressantes avec le fourmilier, et le tatou et le paresseux, comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent. Je trouve que les vidéos, c'est bien parce que ça rend les animaux vivants, voilà. Et ça plaît aux enfants aussi, et aux grands.
On apprend d'où vient l'homme de Néandertal, comment il vivait, qu'est-ce qu'il mangeait, comment il se... voilà. Donc effectivement, oui, on apprend des nouvelles choses, ça fait partie de notre métier en tant qu'agent d'accueil. Et après, on peut aussi renseigner les visiteurs.
Ah, visiblement, on est en train de découvrir de plus en plus que l'homme de Néandertal se rapproche d'Homo sapiens et qu'il y a eu même des échanges entre Homo sapiens et l'homme de Néandertal.
Merci.
Merci à vous.
Bonne visite.
Vous êtes sur Jet FM 91.2 avec la Coloradio JNR. On vient d'écouter le micro-trottoir que nous avons fait au Muséum d'Histoire Naturelle à Nantes. Maintenant, on va faire une pause musicale en écoutant 916 Frosty et son morceau Space Dash qui signifie météorite de l'espace. Ça nous a fait penser à une théorie qui signifie la disparition des Néandertaliens par une météorite. Mais d'abord, quelques dédicaces. Dédicace à Ewars Zombie Pasta et à Georgelle Le Daron.
Dédicace à Rose Fourage.
Bonne écoute à tous.
City. If you with me, then you with me. If you ain't, then grab a 50. Pointing at my fucking head until I'm screaming like a demon. With the angels, I've been scheming. Cut her off until she's bleeding.
Let me get it started. Let me take it from the top. Space bitch with me, and she taking off a top. Look inside her pupils, and I know she worth a lot. Nebula to nebula, you know I never stop. Time to go ice mode. What those pills are, just take 5 of those. And my bones in the zone. Don't got time for this and all those. Destiny is meant for me. Fuck my heart up. It's meant to be going fast, fuck the past. Need some backup, yelling, ain't your cash.
BB's on me, moonwalk. Shawty wanna live right. Marching in the zip line. Hit her once, she can talk. Puzzle shawty wants some eyes. Mask on, you can rock. Let's take a trip, little baby. Yeah, let's get lost. Hop inside the shuttle and I'm speeding. All these people biting and they leeching. Bitch, I got the drip, but I can't leak it. Shawty want me, I know she fiending.
Space dash, I'm still a space dash.
Hey.
C'était Space Dash du groupe 916 Frosty. Vous êtes sur Jet FM 91.2 dans l'émission JNR. Passons maintenant à la suite de notre visite au muséum avec l'exposition Néandertal. Aurélie nous a fait visiter l'exposition. Elle est médiatrice au musée depuis le mois de mars et est passionnée des Néandertaliens. Elle avait beaucoup de choses à dire, on n'a pas tout retenu. Dans cette exposition, il y avait des animaux empaillés, on appelle ça de la taxidermie. Il y avait aussi des crânes, des moulages, de squelettes et des reconstitutions d'homo en tout genre.
Moi, ce qui m'a plu, c'était les explications sur les écrans tactiles et les podcasts. C'était cool.
Tout à l'heure, on va écouter une interview d'Aurélie qui va vous expliquer plein de choses étonnantes et passionnantes sur les Néandertaliens. Mais avant ça, on aimerait vous dire ce qu'on a préféré ou appris dans le musée. Moi, j'ai adoré le vivarium, voir les serpents qui bougeaient et qui dormaient les yeux ouverts. Et vous, les gars ?
Moi, j'ai aussi aimé le vivarium et les vidéos qui montraient comment les serpents attrapaient leur proie.
Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est la salle fermée au public que Jonathan nous a fait découvrir. J'aimais l'odeur et le danger de l'arsenic sur les bêtes taxidermisées.
Moi, c'est à la fin de l'expo, on a vu sur les écrans plusieurs hypothèses sur la disparition des Néandertaliens. J'ai aussi appris que les sapiens et eux s'étaient croisés.
Moi, c'était le vivarium parce que j'adore les serpents et ils étaient trop beaux.
Moi aussi, j'ai bien aimé le vivarium, les vipères, les serpents rouges et les gros serpents, car ça me passionne les serpents. Et j'ai aussi bien aimé les présentations de Néandertal.
Moi, c'est l'exposition Néandertal, parce que c'est nouveau, et ça m'a appris qu'elle n'était pas aussi bête que je croyais.
Merci les gars, écoutons maintenant l'interview d'Aurélie, réalisée par Aïcha et Léo. Le jour de notre visite, ouvrez grand vos oreilles, vous allez apprendre plein de choses.
Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis médiatrice au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et je travaille ici depuis seulement quelques mois, depuis le 3 mars 2020. Avant, je travaillais dans un autre muséum dans le centre de la France.
Je voulais vous demander pourquoi vous avez décidé de faire une exposition sur le Néandertalien.
Alors, c'est un choix qui est un choix collectif. L'objectif, c'est de pouvoir donc montrer au public où en est la recherche sur Néandertal, quelles sont les dernières découvertes, et de participer en fait à la culture scientifique et à la diffusion de la culture scientifique sur la région de Nantes.
Je voulais vous demander comment le Néandertalien a disparu.
Alors il y a une petite dizaine d'hypothèses sur la disparition de Néandertal. La majorité d'entre elles sont aujourd'hui réfutées. Donc toutes les hypothèses qui sont liées au fait qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas adaptable, par exemple, c'est des hypothèses auxquelles on ne croit plus. Il y avait des hypothèses sur du volcanisme et des hypothèses sur des météorites, par exemple. Ça, c'est pareil, on n'a aucune preuve scientifique là-dessus. Donc aujourd'hui, les hypothèses qui restent les plus vraisemblables, c'est une possible maladie. Il y a également des problèmes de fertilité. Et on a également parlé de problèmes de nutrition. Peut-être dans certains groupes, mais pas dans tous. Donc il est possible qu'en fait, que ce ne soit pas un paramètre qui est joué, mais plusieurs, et qui est conduit au fait qu'il reste tellement peu de Néandertaliens sur le continent européen qu'au final, ils ont fini par disparaître. Parce qu'il faut savoir qu'au-dessous d'un certain nombre d'individus, en fait, il n'y a plus moyen de renouveler les populations. Pour renouveler une population, il faut déjà qu'il y ait au moins 2 enfants, voire 3 enfants par femme, ce qui n'était déjà peut-être plus le cas chez Néandertal. Et on s'est rendu compte qu'au-dessous de cette norme, les groupes disparaissaient. Donc ils n'arrivent plus à assurer leur subsistance et assurer l'intégrité du groupe.
Le Néandertalien, est-ce qu'ils savaient parler ? Ils pouvaient communiquer entre eux ? Comment ils faisaient ?
Alors c'est une question qu'on s'est souvent demandée, en fait, chez les paléo-anthropologues, pour une simple raison, c'est qu'on se rendait bien compte que, par exemple, l'apprentissage de la taille de silex devait nécessiter une communication. Une simple communication verbale n'était pas suffisante. Donc on s'est posé la question d'une communication orale. Et là, il fallait réussir à le prouver. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à étudier d'une part la forme de la gorge, la forme du crâne également, et surtout toutes les petites veines qui sont le long de notre cerveau, qui permettent l'irrigation, de voir comment elles étaient orientées dans le crâne. Et on se rend compte qu'en fait, les crânes de néandertaliens, même s'ils ont une forme très différente, s'ils ne sont pas très hauts, mais par contre, ils sont beaucoup plus longs vers l'arrière, eh bien, ils présentent les mêmes zones cérébrales que nous, comme la zone de Broca, par exemple, qui en entre dans la gestion du langage. Après, évidemment, avec la génétique, on essayait de voir si on avait des gènes identiques à ceux des néandertaliens ou proches des néandertaliens qui sont associés au langage. Et on en a trouvé un qui est donc FOXP2. Donc ce n'est pas la même forme, mais c'est bien le même gène. Donc on pense entre la morphologie de la gorge, toute la morphologie du crâne, la génétique, que Néandertal était capable d'avoir un langage articulé. Après, la complexité de ce langage, c'est une autre histoire. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement et on ne pourra jamais retrouver leur langue, en fait.
J'ai encore une autre question. Est-ce que Néandertal était cannibale ou pas ?
Alors, les quelques traces de cannibalisme qu'on a retrouvées sur certains squelettes néandertaliens, hein, pas sur tous, laissent plutôt entendre qu'ils ont un cannibalisme funéraire. Donc, en fait, quand l'individu est décédé, avant de l'enterrer, la tribu va prélever une partie du corps. Ça peut être le cœur, ça peut être des muscles, éventuellement le cerveau. Et ils vont ingérer cette partie du corps. L'objectif, en faisant cela, c'est d'avoir les qualités que possédait le défunt. Donc si c'est du courage, c'est pouvoir absorber son courage. Si c'est être très doué à la chasse, c'est être soi-même très doué à la chasse. Donc c'est à la fois une façon de faire un rituel, ça fait partie du rituel d'inhumation, à la fois un hommage qu'on rend aux morts, puisqu'on lui reconnaît toutes ses qualités, et une façon de lui dire au revoir, et surtout de garder un petit morceau du personnage en soi.
Est-ce que Néandertal croyait en Dieu ?
Alors, ce n'est pas parce qu'on enterre ses morts qu'on croit forcément en Dieu. Et là, c'est pareil, on n'a aucune information archéologique sur l'existence d'un dieu néandertalien. Avoir une spiritualité quand on enterre un mort ne veut pas non plus forcément dire croire en Dieu. On peut croire à une vie après la mort, mais dans certaines civilisations actuelles de chasseurs-cueilleurs, on croit en mère nature. Donc on retourne à la nature, on va pouvoir avoir une vie, mais dans la nature, pas dans un autre monde en fait. Je ne peux pas dire non de façon sûre et radicale, parce qu'il n'y a pas de preuve. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de preuve, ça fait générer un doute. Donc, il ne croyait probablement pas en Dieu, en tout cas pas dans ce que nous, on appelle Dieu. Ils avaient peut-être d'autres formes de croyances qui étaient plus proches des croyances qu'on peut avoir en mère nature.
Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur le métissage avec l'Homo sapiens ?
Oui, donc Néandertal a rencontré Homo sapiens pour la première fois au Proche-Orient. Ce sont deux espèces qui morphologiquement sont très différentes, mais qui possèdent la même culture, ce qu'on appelle la culture lithique, c'est-à-dire qui produisent les mêmes outils de la même façon. Ils sont aussi tous les deux capables d'enterrer leurs morts. Donc il y a beaucoup de points communs finalement entre ces deux hommes, ce qui leur a certainement permis en tout cas de cohabiter. Alors cohabiter, c'est pas appartenir à la même tribu, mais en tout cas de se tolérer sur le même territoire. Il s'avère, on le voit en étudiant l'ADN, que nous possédons des gènes de néandertaliens dans notre ADN, ce qui tend bien à penser qu'à un moment donné, il y a eu métissage entre Néandertal et Cro-Magnon. Et les généticiens qui font des calculs ont calculé que cet métissage avait dû se produire vers moins 80 000 ans, moins 60 000 ans, et ça correspond à la période où ils étaient, où Néandertal et Homo sapiens étaient tous les deux au Proche-Orient.
D'accord, merci d'avoir répondu à la question.
Merci à vous.
Vous êtes sur Djat FM 91.2 dans l'émission JNR.
On vient tout de suite d'écouter l'interview d'Aurélie, qui est médiatrice au muséum.
Maintenant, on va écouter une fiction qu'on a entièrement réalisée.
Eh ouais, On a fait les voix, les bruitages, et on a fait tout seul.
Enfin, presque. Laure et Sophie nous ont aidés un peu.
Ouais, c'est vrai.
Et comment elle s'appelle, notre fiction, Tanfali ?
Neandertal Life. Bonne écoute.
Neandertal Life.
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 Il était un jour, il y a 45 000 ans, vivait un jeune néandertalien portant le nom de Negeka, qui signifie « cœur généreux ». Ce jour-là, dans son village, comme il faisait très froid, les adolescents de la tribu devaient allumer des feux. Il s'agit d'un rituel sacré néandertalien pour devenir adulte.
Certains choisissent la technique du silex et d'autres celle de la friction, comme Negeka. Malheureusement, Negeka échoue à l'épreuve lamentablement et fut convoqué par le chef de la tribu.
Humba, Birazoti, Mehmahmou, Hurt.
Part à prendre le feu et revient ou meurt.
Negeka, humilié, quitta sa tribu, la tête basse pour affronter l'inconnu.
Il marcha seul à travers la plaine et la forêt quand soudain la nuit tomba. Il chercha un abri pour passer la nuit et trouva une grotte. Arrivé à l'intérieur, il entendit des bruits intrigants qui le poussaient à s'enfoncer de plus en plus loin. Il faisait très sombre et il n'avait pas les moyens de créer de feu. Mais soudain, la lumière jaillit.
Il tomba face à face avec une femme sapiens, plus grande que lui, à la tête ronde et les cheveux bruns. Elle lui tendit la main et l'entraîna au fond de la caverne, où sa famille se réchauffait autour du foyer.
Comme ils ne parlaient pas la même langue, ils apprirent à communiquer avec des signes. Negeka leur raconta son histoire. La femme sapiens prit un archer, une corde et un bout de bois. Elle le tendit à Negeka pour qu'il continue à apprendre à faire du feu.
Au bout de quelques jours, il sut créer le feu, mais décida de ne pas retourner dans sa tribu, car il en avait trouvé une qu'il acceptait.
Vingt ans plus tard, Negeka, cœur généreux et valeureux chasseur, fut blessé mortellement par un lion des cavernes. Sa nouvelle tribu le pleura. À la façon des Néandertaliens, ils mangèrent à ses funérailles un bout de son cœur pour conserver son courage.
D'écouter notre fiction Neandertal Life. J'espère que ça vous a plu. C'est déjà la fin de notre émission. Et nous remercions Maud, Solène et Cindy pour nous avoir accueillis au chronographe. Nous remercions aussi Jonathan, Aurélie et Sylvie pour la visite du muséum. Nous sommes reconnaissants envers le restaurant social de l'association Océan qui nous a nourris pendant 3 jours.
Enfin, nous remercions Sophie et Laure de Jet FM et Stéphanie de Parrain par Mille pour l'écriture. Si vous souhaitez réécouter notre émission, rendez-vous le 6 septembre sur Jet FM et en podcast sur www.sonolab.fr. Et on se quitte en musique. Au revoir.
Au revoir. Salut. Bonne journée.
À bientôt.